Alguien. Rencontre littéraire, Václav Richter.
Auteur de romans, d'essais et de pièces de théâtre, Daniel Salnav a collaboré avec des revues importantes dont Temps Moderne, mais aussi avec le journal Le Monde. Sa riche bibliographie témoigne de l'ampleur et de l'importance des thèmes qui l'intéressent, thèmes qui seront peut-être décisifs pour l'évolution de la société. Parmi ces thèmes, le féminisme et la condition féminine, mais aussi le rapport de notre société vis-à-vis des religions. Lauréate de plusieurs prix littéraires, dont celui de l'Académie française, elle a fondé en 2005 un festival littéraire à Savennières, près d'Angers, pays de son enfance. Au début de cette année, elle a publié chez Gallimard une biographie de Simone de Beauvoir. C'est ce livre qui a été évoqué, entre autres thèmes, par Daniel Salnav dans un entretien accordé à Radio Prague. Vous avez écrit un livre sur Simone de Beauvoir. Expliquons d'abord le titre de ce livre. Pourquoi Castor de guerre?
Oui, Castor de guerre, c'est une expression qu'elle emploie elle-même quand elle envoie une photo à un ami, comme c'est au moment de la déclaration de la guerre. Elle met Castor de guerre, parce que Castor était son surnom que lui avait donné un ami. Parce que les castors, c'est des petites bêtes sympathiques qui construisent, qui sont très actives. Ça lui va bien. Et moi, je l'ai pris dans un sens plus large, plus symbolique, comme pour l'image d'une personne qui est toujours combattante, toujours sur la brèche, toujours en alerte.
Pourquoi une biographie de Beauvoir, puisqu'elle a écrit ses mémoires? En quoi ce livre enrichit nos connaissances de sa personnalité?
Oui, mon but était pas seulement d'enrichir la connaissance de sa personnalité, certainement, j'espère, mais surtout de montrer que les mémoires de Simone de Beauvoir ne sont pas simplement une biographie où elle raconte des faits, sont aussi une interprétation qu'elle donne de sa vie. Et ça m'a amusée et intéressée de voir comment elle se voyait, comment elle se racontait, comment elle se décrivait. Et ça, la lecture des mémoires le montre.
Quel rôle cette femme, cette philosophe, cet écrivain a joué dans votre propre vie?
Ce rôle, pour moi, au fond, il est tout entier dans la lecture que j'ai faite du premier volume « Mémoire d'une jeune fille rangée », où elle donnait à ceux qui la lisaient, mais aux garçons, j'espère, autant qu'aux filles, l'idée « je dois choisir librement ma vie ». Si je suis une femme, je ne suis pas obligée de faire ce que veut la tradition, la religion, la morale. Je peux aussi choisir librement d'être mère ou de ne pas l'être. Et pas seulement, elle voulait un destin d'écrivain, elle voulait un destin de femme qui se choisit librement, et moi ça m'a donné confiance.
Quelles idées de Simone de Beauvoir sur la femme et la condition féminine restent actuelles?
Ce qui me paraît actuel, c'est qu'elle souhaite qu'on n'accepte pas les formes, quelles qu'elles soient, tantôt économique, tantôt sociale, tantôt religieuse, de soumission des femmes. Elle voit bien que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu deux sexes et qu'il y a un sexe qui dominait l'autre. Elle cherche les raisons pour lesquelles un sexe dominait l'autre. Et elle pense que la principale raison, c'est que la femme ou les femmes font les enfants. Et elle pense que ce n'est pas le destin des femmes. C'est une possibilité pour les femmes, mais ce n'est pas leur unique destin. Mais il y a pourtant beaucoup d'endroits dans le monde où on pense que les femmes n'ont pas tellement d'autre destin que de faire des enfants. Et pour elles, c'est une manière de réduire leur liberté d'être humain.
Et vous êtes aussi écrivain, et vous avez écrit un roman qui se passe à Venise, La Fraga, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de sa liberté, oui. N'est-ce pas? Dans quelle mesure avez-vous été inspiré en créant ce personnage par les idées de Simone de Beauvoir?
Alors, vous remarquerez que contrairement à Simone de Beauvoir, cette femme a un enfant. Elle accepte cet enfant, elle ne le refuse pas, mais elle voudrait, et ça j'ai voulu apporter quelque chose d'un peu différent, elle voudrait construire avec cet enfant une relation un peu différente des relations qu'elle voit autour d'elle. Elle voit autour d'elle à Venise, vers 1900, des femmes du peuple, elle vit dans les quartiers populaires de Venise, qui ont un rapport affectif, tantôt elles embrassent leurs enfants, et tantôt c'est des colères, etc. Elle voudrait un rapport plus rationnel, plus construit. Elle adore son fils, et elle souffrira beaucoup quand son fils sera tué pendant la Première Guerre mondiale. Mais j'ai voulu montrer une femme qui voulait construire. Elle pensait que ce rapport-là, lui aussi, il faut réfléchir, il ne faut pas le vivre comme un animal qui vit son rapport à ses petits.
Dans le livre Dieu.com, vous abordez l'ensemble des problèmes concernant la religion, n'est-ce pas ? Quel problème exactement ?
Alors, dans Dieu.com, j'ai voulu, au fond, pourquoi j'ai mis ce titre ? Parce que ça conjugue quelque chose de très ancien, la croyance religieuse, et surtout les religions instituées, et puis quelque chose de très moderne, qui est l'Internet. Et j'ai voulu voir un peu, réfléchir un peu à ce qu'était la situation des religions à l'époque de l'extrême modernité. Je ne parle pas tellement de la foi religieuse, parce que ça, il n'y a rien à dire. Quelqu'un a une foi religieuse, moi je respecte complètement, c'est une expérience. Mais je parle des religions, avec tout ce qu'elles entraînent de dogmes, tout ce qu'elles imposent aussi, par exemple, aux femmes, de soumission, dans l'islam, dans la religion juive, dans la religion hindoue. Le christianisme s'est un petit peu corrigé petit à petit, mais au départ, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Donc ça m'a intéressé de me demander ce qui se passait dans le monde moderne. On pouvait à la fois être fou de technique et d'Internet et être pris par ce poids des religions. Et je ne parle pas de la foi religieuse, hein, mais des religions instituées.
Il y a beaucoup de religions. Est-ce que nous sommes encore capables, nous sommes déjà capables d'être objectifs vis-à-vis de ces religions ? Est-ce qu'une objectivité vis-à-vis d'une religion est possible ?
Moi, je crois que nous autres occidentaux européens, en tout cas, mais pas seulement, on ne peut pas être objectif parce que même si on n'est pas croyant, même si on ne pratique pas de religion, on est élevé dans le cadre des religions monothéistes et de tout ce qu'elles emportent comme idée, comme ordre. Nous sommes à l'intérieur de cela et c'est un peu difficile, certainement. Mais je voudrais aussi pouvoir dire que, eh bien, on peut vivre une vie morale, honnête, à tous les points, privé, public, sans appartenance religieuse. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde doit avoir une religion. Il y a aussi des gens qui n'en ont pas. Et c'est pas mal, à mes yeux.
Et encore une dernière question. Vous avez donné une impulsion pour la création du festival Terre à vin, Terre à livre, à Savennières. Pourquoi est-ce que vous pouvez présenter ce festival ?
Alors, ce festival, je l'ai créé dans le village où j'ai passé mon enfance et surtout mes parents étaient instituteurs. C'est une manière de rendre hommage aussi à l'action qu'ils ont menée comme instituteurs dans un village. Je crois beaucoup à l'éducation, surtout primaire, première. Et c'est un village qui est très beau, qui produit un très bon vin. Moi, je me suis dit, au fond, le vin et les livres, c'est pareil. Ça donne tout le charme de la vie. Ça donne quelque chose de plus et peut-être qu'on peut mettre en parallèle le vin, on le consomme avec modération, mais les livres sans modération.
C'était une rencontre avec Daniel Salnav. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Iveta Sedliska, prise de son.
Bonjour, chers auditeurs. Le tchèque du bout de la langue que nous vous proposons cette